Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bienvenue chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et nous retrouvons après quelques semaines d'interruption Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Sébastien, pour changer une fois. Bonjour Aline.
Bonjour Michel.
Eh bien, dans cette série Demeures et Familles, nous partons, je crois, cette fois-ci vers l'hôtel de Lestang, dont tu vas nous préciser où se trouve-t-il.
Alors, l'hôtel de Lestang, que la plupart d'entre nous situe en face du Palais Niel, d'accord, mais côté centre-ville, bien sûr, abritait jusqu'à il y a peu de temps le rectorat de l'Académie de Toulouse, donc l'éducation nationale en région. Alors, de ce voisinage avec le Palais Niel, le rectorat est allé, a été logé dans la caserne Niel, réaménagée. Au sud de Toulouse. Actuellement, c'est le siège de la nouvelle cour d'appel, administrative d'appel de Toulouse. Voilà. Alors, cet hôtel de Lestang, Aline, il a un autre voisinage, puisque on sait par les textes qu'il était en fait, les terrains étaient très morcelés, on va en dire un mot, mais surtout, il était adossé aux remparts.
Ah, bien sûr, aux remparts romains de Toulouse.
Et je crois qu'on dans le voisinage de l'hôtel de Lestang, on voit encore des traces.
Mais bien sûr, une très belle séquence de ce rempart romain qui va, je crois, faire l'objet d'une mise en valeur
mise en lumière,
très prochaine.
Par la ville, alors.
Par la ville.
Par la ville. Alors, peut-être le voisinage du rempart, mais c'est surtout le voisinage de la cathédrale qui intéressait le créateur, le constructeur de cet hôtel de Lestang. On va donner tout de suite son nom, Christophe de Lestang, qui est un ecclésiastique, dont la famille vient de Brive, c'est-à-dire la province à l'époque du Limousin, et ses dates sont 1560-1621. Il est vraiment à cheval, 16e-17e. Donc la construction, c'était une renaissance tardive et pas encore tout à fait du Louis XIII toulousain, comme brique et pierre, comme c'est assez répandu. Donc, pour qu'on soit tout à fait complet, l'adresse actuelle, l'adresse de référence, c'est 20 rue Saint-Jacques, et 3 rue Montoulieu-Saint-Jacques. Donc, nous avons décrit le décor juste à l'instant. Alors, que se passe-t-il donc tout à fait à la fin du XVIe? Eh bien, le terrain est occupé par 9 immeubles qui appartiennent à plusieurs propriétaires, pas connus. Et peu après 1571, deux de ces immeubles passent à Urbain de Saint-Gelais, évêque de Comminges. Alors, je rappelle, on est tout près de la cathédrale, donc le voisinage est totalement une explication. Et on rentre dans la période critique des guerres de religion. Cet évêque de Comminges est un ligueur acharné, mais qui est quand même nommé gouverneur de Toulouse par le Parlement. Donc tout ça ne doit pas apaiser
Apaiser
les tensions entre politiques. Donc, par exemple, il fait sonner le tocsin un dimanche à l'église de la Dalbab, rassemble 3000 hommes en armes pour chasser le maréchal de Joyeuse, qui se tient à l'archevêché. La suite va être beaucoup plus calme, car ce Christophe de Lestang, dont la famille vient de Brive, nous l'avons dit, fait l'acquisition d'une première maison en plein quartier ecclésiastique. Donc, en quelques années, il réussit à réunir 9 parcelles, remises et écuries, pour une superficie totale de 3000 m². Il faut quand même se représenter, c'est presque, avec le jardin, presque un demi-hectare. Et les travaux débutent en 1593. Donc vraiment, on est déjà sous le règne d'Henri IV et il va poursuivre les travaux sur cette assise très importante. La façade sur la place Saint-Jacques peut être approchée des constructions de son temps, telles que l'hôtel de Clary et l'hôtel de Chalvet, qui est place du Parlement. C'est vraiment la façade qui le rappelle le plus. Et il présente également sur la rue Saint-Jacques un imposant portail qui est en fait un pastiche de l'architecture classique du XVIIe siècle.
Oui, qui a été ouvert par la suite. Voilà. Alors je crois qu'il ne s'est pas contenté de l'hôtel de Lestang que nous sommes en train d'évoquer, mais qu'il a construit un autre édifice dans en périphérie de Toulouse. Oui,
dans le gardiage.
Pour l'heure, oui, dans le gardiage.
Et dans un des plus endroits les plus accueillants qui soit pour son projet, c'est-à-dire un projet de très beau jardin. Il s'agit du château, disparu aujourd'hui, de Fontaine-Lestang.
Ah oui.
Et qui a donné, bien évidemment, le
nom au quartier.
Ah oui, oui, tout à fait. Même si géographiquement, ce n'est pas tout à fait le même endroit.
Oui, le même emplacement.
Voilà. Mais alors, arrêtons-nous un instant avant de terminer sur cet endroit de rêve, cet endroit idyllique, on peut dire, et qui a été surtout enrichi par la connaissance de cet abbé, enfin, ce clerc.
Qui était passionné de jardin.
De jardin, de culture, et qui avait surtout les clés de cette connaissance. Parce que, selon un chartiste qui s'appelle Michel Cassan, grâce à cet exemple de Christophe de Lestang, on a la démonstration des marges de manœuvre et des possibilités de choix offertes à des individus comme lui, et avant lui bien sûr, qui bénéficient de ces trois atouts: une assise économique confortable, un capital culturel étoffé et un ample tissu relationnel. Ça, c'est le chartiste. En termes galants, ces choses-là sont
dites. Oui. Donc, tout ce qu'il faut pour une très belle réalisation. De jardin. Et comment connaît-on, est-ce qu'il y a des traces, des dessins, des documents?
Alors, il y a une description qui est assez courte, enfin bref, on ne va pas la lire ici, mais qui est assez suffisamment précise, et un plan aquarellé qui est conservé aux archives départementales. Le jardin est créé dans les années 1610-1620. Donc il est au fait de sa gloire, mais il est toujours évêque de Carcassonne. Qu'est-ce qu'il fait à Toulouse? Donc il commande à deux personnages très connus des spécialistes, qui sont Monge et Souffron, la réalisation de l'exceptionnel jardin qui accompagne cette maison de Fontaine-Lestang.
Donc il y a des documents, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une description.
Oui.
Un petit peu comme celle qui a été faite du très beau jardin, un peu original, de l'hôtel du Barry.
Ah oui.
Par Mrs. Cradock.
Alors, oui. Et vous voulez parler de celui qui est juste voisin, c'est-à-dire Rennery.
Non, je ne parle pas de Rennery, je parle de l'hôtel du Barry.
Alors, ici, à côté de Saint-Cernin.
À côté de Saint-Cernin.
Bien sûr. Il est plus tardif, mais...
Et là, je crois qu'il y a une description.
Alors, on a une description. Les archives, ça a été... un certain Jérôme Zanusso a trouvé tout ça dans les archives départementales et dans ses lectures. Il a fait tout un topo. Mais si vous voulez, l'œuvre est tellement rare à Toulouse, et elle est éphémère parce qu'elle n'a pas subsisté dans le temps, pour des raisons à peu près évidentes de coût, d'entretien, et puis de goût aussi, de mode qui avait changé. Donc, c'était l'occasion pour ce Zanusso de faire une étude qui a permis de révéler un texte de 1614. C'est la visite d'un Allemand qui vient donc à Toulouse et qui, on lui dit, allez voir le jardin de Monseigneur de Carcassonne. Oui.
Donc, qui était connu, qui était renommé.
Et il est décrit, voilà, et aussi également un plan qui figure aux archives, un plan aquarellé, donc qui montre bien l'état du jardin et ce qu'il contient. Et notamment une chose absolument unique dans notre région, qui se voit dans les régions du nord de la France, du Val-de-Loire, un modèle qui est appliqué selon les préceptes de Ducerceau.
Ah oui.
Qui est un carré en île, c'est-à-dire un carré en île. On utilise les douves, si vous voulez, qui entourent la demeure. C'est assez vaste. Hein, et on les remplit d'eau et la partie qui n'est pas bâtie devient un jardin, avec des allées qui sont traitées en berceaux, des voûtes à berceaux, dans lesquelles on fait pousser du laurier, enfin des toutes sortes de plantes, et qui rendent la promenade agréable. Et c'est ce que dit ce monsieur, cet Allemand, là, qui visite en 1714. Il y a vu un vaste jardin, beau et agréable, comportant les pièces suivantes, particulièrement belles. D'abord une grande fontaine de marbre blanc, poli, magnifique. Sur la fontaine, un cheval ailé, c'est-à-dire Pégase. Et en dessous, quatre figures féminines, de la poitrine desquelles l'eau jaillit en 8 points différents.
Donc il y avait aussi des statues.
Tout ce qu'on peut trouver, bien sûr, le mobilier de jardin de l'époque, en utilisant surtout beaucoup de marbre. Alors, pensez pour un prélat. Il poursuit la discussion, mais on sait en tout cas que le gel de 1620 a eu raison des statues et des marbres qui ont tous cédé, sont retrouvés par terre. Donc, finalement, un jardin magnifique, pratiquement inspiré des plus beaux jardins d'Italie, hein, des prélats italiens aussi, hein, autour de Rome.
Et donc, est-ce qu'il y a eu des restaurations après ce désastre?
Alors, les deux auteurs sont intervenus. On retrouve les noms également. Il faut citer le nom des artistes et des artisans surtout. Guillaume Cormartin et Jean Sahuguet, maîtres tailleurs de pierre à Toulouse, et qui ont remis en état les fontaines. Mais après cette affaire de gel en 1620.
Oui.
Mais bon, il n'est pas cardinal, non. Mais Monseigneur Christophe de Lestang meurt l'année suivante, 1621. Et que devient-il? Que devient le jardin après tout ça?
Et donc, il ne reste rien du château de Fontaine-Lestang?
Alors, pareil, ça a dû être... Alors, il avait un neveu, un certain Ménard de Lestang, qui a repris le nom, le titre, enfin tout ce qu'il pouvait de cette succession importante, et surtout du président de Lestang, son frère, dont un portrait, je le rappelle, figure au musée du Vieux-Toulouse.
Ah oui, tout à fait, très beau portrait.
Voilà. Et donc, cette famille le garde jusqu'à la Révolution, pratiquement, de père en fils. On l'a dit, 2-3 générations. C'est déjà beaucoup, 50 ans gardé.
C'est un rythme qui semble se confirmer.
Voilà, mais rarement plus dans la même famille. Et puis après la Révolution, c'est vraiment le morcellement, la mise. On est encore à la campagne.
Oui.
Et voilà. Oui. Et donc, c'est les derniers vestiges qu'on pouvait voir dans les années 1950-60. C'était un pigeonnier, la trace du fossé. Le château a servi pour l'exploitation agricole et tout a été englouti, enseveli, même jusqu'à la... Je crois qu'il y a une école maternelle à la place du Carré en Île, avec le grand mirail des années 70.
Oui. Donc voilà, typiquement entremêlée l'histoire des familles et l'histoire de leur patrimoine. Merci beaucoup Michel pour cette évocation et à bientôt pour d'autres chroniques.
Oui, certainement. Merci Aline, merci Sébastien.
Bonne semaine.